bonjour à tous. 35 dessins inédits du peintre Jean-Michel Basquiat ont été exposés en Bourgogne, mais un expert qui fait autorité affirme qu'ils sont faux. Nous avons donc mené l'enquête. Bonjour Isabelle Pasquier.
Bonjour.
Vous allez nous raconter ce que vous avez découvert et puis nous recevrons Stéphane Foucard, qui est lui spécialiste sciences de l'environnement au journal Le Monde. Bonjour également.
Bonjour.
Alors avec vous, nous parlerons d'une mine désaffectée qui se trouve en Chine et où en 2012, on a trouvé les traces d'un virus qui a beaucoup de points communs avec celui de la Covid-19.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Une maison transformée par deux architectes et pris d'art contemporain. À Nuit-Saint-Georges, ce nouveau lieu culturel frappe fort avec sa première exposition. 35 dessins originaux qui n'ont jamais été exposés de Jean-Michel Basquiat, génie trop tôt disparu du street art.
Voilà, c'est un extrait d'un reportage de France 3 qui avait été diffusé en septembre dernier. La galerie Volcano à Nuit-Saint-Georges, près de Dijon, propose une exposition consacrée au peintre américain Jean-Michel Basquiat. C'est donc un événement dans cette commune de 5500 habitants parce que Jean-Michel Basquiat, Isabelle Pasquier, c'est pas n'importe qui, c'est un des géants de l'art moderne.
Oui, Basquiat, c'est le premier grand artiste noir qui est entré dans l'histoire de l'art. Jean, comme l'appelaient ses amis, va produire 800 tableaux en 8 ans et des centaines, voire des milliers de dessins. Il peint, il dessine des têtes avec de grands yeux pleins d'effroi, des bouches grillagées qui expriment colère et révolte contre le racisme. Basquiat vend des tableaux chez lui, il se fait payer en cash ou en drogue et il meurt d'ailleurs d'une overdose en 1988 alors qu'il n'a que 28 ans.
Et aujourd'hui, ses toiles se vendent à des prix astronomiques.
Oui, le 18 mai 2017, chez Sotheby's à New York, une toile avec une tête pleine de rage sur fond bleu s'est vendue en 10 minutes plus de 110 millions de dollars. Et en juin 2020, imaginez qu'un de ses dessins s'est vendu plus de 15 millions de dollars.
Ouais, c'est assez énorme, effectivement. Et ce sont justement 35 de ses dessins qu'on a pu voir à Nuit-Saint-Georges.
Oui, ce sont des dessins très colorés, au pastel, au crayon gras, qui représentent des têtes aux yeux exorbités, avec toute l'iconographie de Basquiat, c'est-à-dire des couronnes, une voiture, des dents. Et évidemment, ça attire tous les fans de Basquiat, comme Michel, très surprise de les découvrir dans ce petit village.
Moi, j'étais vraiment très étonnée que l'art vienne jusque dans un village de Bourgogne, certes célèbre pour ses vins. J'avais hâte de voir cette exposition, des œuvres que personne n'a jamais vues a priori, dans cette petite galerie qui vient juste d'ouvrir.
C'est donc un petit miracle de voir ça à Nuit-Saint-Georges. Mais comment ils se sont retrouvés là, ces dessins ?
Eh bien, en majorité, ils ont été prêtés à la galerie par un collectionneur bourguignon. Il s'appelle Dominique Viano. Alors, c'est un homme à la soixantaine qui a eu une vie, on va dire, plutôt romanesque. Il est prof de lettres, producteur de télé. Il a écrit des romans, des pièces de théâtre. Après, dit-il avoir été diamantaire et marchand d'art, il raconte même avoir rencontré Andy Warhol à Paris quand il fréquentait la Jet Set.
Et comment il a mis la main sur ces dessins ?
Eh bien, il explique qu'il les a achetés à un collectionneur français, qui lui-même les a achetés à un Américain, qui les a acquis directement auprès de Basquiat. Et il affirme que son objectif avec cette expo, c'était juste de faire plaisir au public.
Le principe qu'on veuille les montrer aujourd'hui, c'était simplement l'idée de vouloir les partager, c'est-à-dire de se dire on sort ces dessins qui, puisque ce sont des dessins, restent à l'abri de la lumière la plupart du temps. Et je pense qu'après, ils réintégreront un coffre, voilà.
Ouais, donc c'est un véritable privilège de pouvoir les admirer. Sauf qu'à l'ère d'Internet et de la télévision, tout se sait, tout se voit. Et un expert de Basquiat, en découvrant ses dessins, il tombe de sa chaise.
Oui, il s'appelle Richard Rodriguez. C'est un grand passionné de Basquiat, dont il a lui-même collectionné des œuvres. Et lorsqu'il voit ses 35 dessins de Basquiat, par hasard à la télé, il est choqué, car il est convaincu que les dessins de la galerie Volcano ont été dessinés par un ou par des faussaires.
Ils ont donné à ces dessins un côté puéril, comme si Basquiat était un écolier qui dessinait dans des carnets à spirale ou quadrillés. Ça fait très croquis d'enfant, quoi. Mais c'est pas Basquiat. Ces dessins étaient relativement clairs et bien proportionnés, vous voyez, les lignes étaient bien nettes. Basquiat ne mélangeait pas comme ça les couleurs. gribouillé, vous voyez, ça fait un peu brouillon comme dessin. C'est bouché, vous voyez, les visages sont bouchés.
Ouais, donc pour lui, ça ne colle pas. Et il en veut pour preuve aussi le papier qui a été utilisé pour les dessiner.
Oui, car pour Richard Rodriguez, ces feuilles de papier quadrillées d'un carnet spirale sont fragiles, beaucoup trop fragiles pour le geste nerveux et l'énergie rageuse de Basquiat.
Basquiat avait un trait incisif. Il était très exigeant de la qualité du papier. Il utilisait du papier canson, vous savez, du papier dessin. Et s'il avait utilisé du papier ordinaire, il aurait déchiré le papier. Regardez, là, les yeux, on les voit bien. C'est pas gribouillé comme ça, regardez. Les lignes sont bien séparées, les yeux sont bien lisibles. C'est tellement évident. C'est comme si moi, je vous donnais un billet de Monopoly et je vous dis, c'est un billet de 100 euros. C'est aussi con que ça. C'est tellement faux, c'est tellement criant de vérité. Regardez, c'est... il a jamais fait un truc comme ça, brouillon.
Ouais, donc lui est catégorique. Maintenant, un expert, tout expert qu'il soit, Isabelle, il peut se tromper, non ?
Oui, c'est juste, l'expertise d'une œuvre d'art n'est pas une science exacte. Mais Richard Rodriguez est quand même l'un des meilleurs connaisseurs de l'œuvre de Basquiat. En 1994, c'est lui qui a dénoncé la présence de trois faux Basquiat sur le stand de la prestigieuse galerie Templon à la FIAC, ce qui lui a valu un procès qu'il a gagné. Autant dire qu'il a une vraie légitimité et que ses propos ont fait beaucoup de bruit.
Oui, et surtout, il n'est pas le seul à s'interroger sur l'authenticité de ses dessins.
Et non, je suis allé voir un des meilleurs connaisseurs en faux tableaux. Il s'appelle Guy Ribe. C'est le plus célèbre des faussaires français. Il a d'ailleurs été condamné à de la prison ferme pour avoir fait des faux, et parfois des faux tellement réussis que certains experts les avaient authentifiés. Eh bien, lui aussi, quand je lui ai montré les dessins du catalogue, il en est arrivé à la même conclusion que Richard Rodriguez.
Pour moi, Basquiat, c'est une âme. Et là, dès que je vois ses dessins, il n'y a pas d'âme. S'il n'y a pas l'âme, ça tombe, tout tombe. Et ça m'étonnerait que Basquiat faisait des dizaines de dessins comme ça. Ce qui a fait le succès de Basquiat, c'est son histoire, l'époque américaine avec Andy Warhol, qui le guidait, qui le surveillait, qui l'obligeait à travailler. Et il ne s'arrêtait pas à un portrait comme ça. Basquiat était plein de symboles. Symboles qui voltigeaient. Là, c'est figé. C'est pas spontané. Moi, si on me demandait mon avis, on me les présenterait, je dirais non.
Ouais, donc lui aussi pense que ce sont des faux. Et puis il y a d'autres éléments qui interrogent sur leur authenticité.
Oui, par exemple, les conditions de sécurité de l'expo. On l'a vu, des dessins de Basquiat, ça vaut une fortune. Or ici, le collectionneur les a apportés lui-même, dans sa voiture, sans autre précaution. Alors ça étonne beaucoup Nordine Zidoun, qui a des galeries à Paris et à Luxembourg, et qui a déjà organisé une grande expo Basquiat. Son assureur, à l'époque, lui avait imposé des mesures draconiennes pour assurer les œuvres.
On a été assuré par AXA. On a dû mettre des barreaux aux fenêtres, dans les toilettes et dans la cuisine, au rez-de-chaussée de la galerie, de peur qu'il y ait un cambriolage et qu'on nous vole les tableaux ou les dessins qu'il y avait dans la galerie. Donc il y a un assureur qui est passé et qui nous a dit « Tout est OK, on voit vos certificats, on voit la provenance, on voit tout. Maintenant, Monsieur Zidoun, vous voulez que l'assurance marche ? Oui, vous mettez des barreaux aux fenêtres. » Donc c'est ce qu'on a fait, on a dû mettre des barreaux aux fenêtres.
On a dû mettre des barreaux aux fenêtres et à Nuit-Saint-Georges, Isabelle, il y avait des barreaux aux fenêtres ?
Non, aucun barreau et visiblement une sécurité qui ne correspond effectivement pas du tout à la valeur supposée de dessins de Basquiat.
Et le galeriste, lui, il en dit quoi ? Il a pris une assurance particulière pour cette exposition ?
Eh bien, impossible de vous répondre parce que depuis que la polémique a éclaté, il s'est muré dans le silence, il n'a pas répondu à notre demande d'interview.
Ouais, donc on ne saura pas ce qu'il en dit. Maintenant, ce qui est aussi très troublant, Isabelle, c'est que certains de ses dessins, ils avaient déjà été retoqués lors d'une vente il y a 2 ans.
Oui, en 2018, 4 d'entre eux avaient été présentés à la maison de vente aux enchères Pierre Berger et Associés. Son directeur avait alors demandé à Richard Rodriguez de les expertiser et son verdict était déjà sans appel.
Moi, il y a 2 ans, j'ai un ami qui est directeur de la maison de vente Pierre Berger qui m'avait envoyé un mail pour me demander mon avis sur des dessins qui ressemblent à ça. Et que lui-même avait un doute. Et je lui avais à ce moment-là répondu, tu as raison, c'est des imitations. Et donc, ils avaient laissé tomber. Donc, ils avaient déjà tenté, par le biais d'un commissaire-président, de les mettre en vente.
Bon, mais là, on a envie de comprendre, Isabelle. Si ces dessins sont vraiment des faux, qui a grugé qui dans l'histoire ?
Alors là, d'abord, attention, il y a doute, mais aucune preuve à ce stade. Maintenant, pour essayer de répondre à cette question, il faut reconstituer, en fait, le parcours de ces dessins.
Eh bien, faisons-le, Isabelle, si vous le voulez bien. Alors, on va commencer par la galerie de Nuit-Saint-Georges.
Oui, alors, la galerie explique avoir obtenu ces dessins dessins grâce à Dominique Vianneau, qu'on a entendu tout à l'heure.
Ah oui, celui qui nous a expliqué qu'il les avait achetés à un collectionneur français. Mais alors, c'est qui ce collectionneur français ?
Alors, j'ai pu l'identifier, c'est un jeune collectionneur qui habite vers Saint-Étienne et qui tient apparemment à rester dans l'ombre.
Et pourquoi vous dites ça ?
Eh bien, je l'ai contacté via son compte Facebook et il était visiblement très inquiet de savoir que j'avais pu retrouver ses coordonnées. Et d'ailleurs, il m'a demandé avec une certaine insistance comment j'avais pu l'identifier.
Et sur la provenance des dessins, il vous dit quoi ?
Eh bien, rien, il refuse de faire le moindre commentaire, mais j'ai tout de même pu consulter des attestations de provenance sur lesquels il est écrit que ce jeune collectionneur de Saint-Étienne a acheté 89 dessins de Jean-Michel Basquiat entre 2012 et 2014. Selon ces documents, il en a donc vendu 31 à Dominique Vianneau, qui affirme de son côté détenir tous les certificats nécessaires qui attestent de cette vente.
J'ai des certificats de cession qui me permettent de dire j'ai acheté à tel moment une œuvre sur laquelle d'ailleurs apparaît sur le certificat de cession la photo et puis la date de cession. Je suis d'ailleurs engagé par contrat à ne pas révéler les identités des collectionneurs et de mes contacts. Donc je les révélerais si on me les demandait, évidemment, de manière judiciaire, il n'y a aucun problème.
Mais en aucun cas, c'est un certificat d'authentification.
Ah, mais absolument, mais j'ai jamais dit, voilà. Et j'ai l'historique qui me permet de dire, en toute bonne foi, je les ai achetés à un collectionneur français qui est devenu un ami, qui les a achetés lui, petit à petit, au collectionneur d'origine, collectionneur américain qui s'appelle David Rosen et qui les a acquis donc principalement au Meute Club auprès de Jean-Michel Basquiat.
Le Mud Club, c'est quoi ?
Eh bien, c'est l'un des clubs de légende du New York Underground des années 80, où Basquiat venait parfois avec son groupe Grey, qui jouait de la noise music très expérimentale. Et c'est dans ce club qu'on rencontrait, par exemple, David Bowie, Keith Haring, Frank Zappa et même Debbie Harry, du groupe Blondie, qui d'ailleurs a acheté à Basquiat sa première toile.
Donc, Dominique Vianneau détient un certificat attestant qu'il a acheté ses Basquiat à un collectionneur français, qui habite lui près de Saint-Étienne, hein, je résume. Et lui-même, donc, ce collectionneur qui habite près de Saint-Étienne, les a achetés à un Américain.
C'est ça, mais ces certificats sont très sommaires. Ce sont juste des attestations de provenance, sans aucune mention de prix. Voilà notamment ce que l'on peut y lire.
La présente atteste de la vente entre M. et M. Dominique Vianneau pour le nombre de 31 dessins d'atelier référencés ci-dessous. Ces dessins proviennent de la collection de M. David Rosen, collection privée, Rochester, État de New York, aux États-Unis.
Et donc le tout premier collectionneur qui aurait vendu ses dessins au début de la chaîne, c'est un certain David Rosen.
En tout cas, selon ce certificat, il s'agit d'un habitant de Rochester. Nous avons donc cherché à identifier ce David Rosen et nous avons effectivement trouvé un David Rosen. C'est un dentiste qui a pignon sur rue. Nous lui avons d'abord écrit et comme il ne nous a pas répondu, vous l'avez vous-même relancé par téléphone, Jacques. Et voilà ce qui s'est passé.
Good morning, Dr. Rosen.
Bonjour, cabinet du Dr. Rosen, que puis-je pour vous ?
J'ai envoyé un email à David Rosen parce qu'on m'a dit en France qu'il était un ami du peintre Jean-Michel Basquiat. Mais je me demande si je ne me suis pas trompé parce qu'il ne m'a pas répondu et je me demande du coup si l'ami du peintre n'est pas un autre David Rosen.
Ça pourrait bien être le cas, oui, je pense que vous vous êtes trompé de nom.
Ah, donc c'est pas le bon nom.
Oui, il vous aurait répondu, sinon. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il ne s'agit pas de lui, il s'agit d'une autre personne.
Oui, alors on a trouvé d'autres David Rosen qui pourraient correspondre. Il y a bien un peintre sud-africain qui s'est fait un nom à New York dans les années 90. Il y a aussi un homme d'affaires né à Brooklyn. Mais rien ne montre qu'ils aient connu Basquiat et aucun d'entre eux n'habite à Rochester.
Ouais, faute de trouver le bon David Rosen autour de New York, Isabelle, vous êtes rabattue sur un galeriste de Floride.
C'est ça, sur un autre David Rosen qui possède une galerie spécialisée dans l'art moderne à Miami et à tout hasard, Alexis de Meyer l'a aussi contacté.
This is David.
David à l'appareil.
Hello, I'm calling from France.
Bonjour, j'appelle de France. Je prépare un reportage sur Jean-Michel Basquiat et je voudrais savoir si vous le connaissiez.
You knew him?
Non, je pense que vous vous trompez de David Rosen. J'ai bien une galerie d'art, mais je ne connais pas cet artiste.
Ok. Et savez-vous comment je peux contacter le bon David Rosen?
The good one, David Rosen?
I don't.
Non, je ne sais pas.
Ouais, donc dans le milieu de la peinture aux États-Unis, on ne connaît pas deux collectionneurs qui possèdent des Basquiat et qui s'appellent David Rosen. Et à la succession Basquiat à New York, qu'est-ce qu'on en dit ?
Eh bien, rien. Là, c'est juste silence radio. J'ai contacté le Basquiat Estate, c'est comme cela qu'on l'appelle, et je leur ai demandé s'ils avaient entendu parler d'un David Rosen, collectionneur de dessins de Basquiat, mais ils ne m'ont pas répondu.
Oui, à ce stade, d'ailleurs, Isabelle, on peut même s'interroger sur ce nom de David Rosen.
Oui, parce qu'il ressemble beaucoup à Danny Rosen, qui lui est un acteur qui était effectivement un ami de Basquiat. David Rosen, Danny Rosen, ça sonne un peu pareil, et ça peut provoquer une confusion. Mais la sœur de Danny Rosen a confirmé à l'AFP qu'il n'avait jamais possédé des dessins de Basquiat. Et sur les attestations de provenance que nous avons pu consulter, il est bien question d'un David Rosen et non pas d'un Danny Rosen.
Tout ce qu'on peut affirmer, donc, c'est qu'on n'a pas réussi de notre côté à identifier ce mystérieux vendeur américain. Maintenant, il y a autre chose qui vous a intrigué, Isabelle.
Oui, quand Richard Rodriguez a commencé à dire que les dessins de Nuit Saint-Georges étaient des faux, Dominique Viano, le collectionneur qui en possède la grande majorité, a alors expliqué que le grand galeriste Enrico Navarra, qui est décédé cet été, les avait vus et les avait validés. Mais le problème, c'est que je suis allée voir son fils, Doriano Navarra, et lui ne m'a pas confirmé la version de Dominique Viano.
On est souvent contacté par des gens qui demandent des avis, des certificats, ou bien si on a des traces de cette œuvre dans nos archives. Tout ce type de demande, on répond toujours la même chose. On n'a pas vocation à donner notre avis. Nous ne sommes pas experts et que nous n'avons pas la qualité d'expert et nous n'avons pas la qualité à nous prononcer sur l'authenticité d'une œuvre.
Ouais, donc la galerie Navarra, en fait, n'a rien authentifié.
Non, et par ailleurs, tous les spécialistes de Basquiat que nous avons consultés considèrent qu'il est invraisemblable que quelqu'un ait pu posséder 89 de ses dessins et qu'aujourd'hui, des collectionneurs en possèdent encore une trentaine. Fred Hoffman, qui a travaillé avec l'artiste et qui a fait partie du comité d'authentification, m'a dit, je le cite, « Le fait que quelqu'un possède 89 dessins qui n'ont jamais été reconnus suffit à répondre à la question que vous vous posez. » Et c'est d'ailleurs aussi ce que pense le grand galeriste Nordin Zidoun.
90 dessins, on marche sur la tête, ça n'existe pas. Personne au monde ne détient autant de dessins en privé et même à musée. Sachant que dans l'œuvre de Basquiat, allez, dans sa carrière, il y a 1500 dessins à tout casser. Et là, juste dans cette galerie, il y a à peu près 40 chefs-d'œuvre de Basquiat. Ça ne tient pas la route.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors ce qu'on vient d'entendre laisse quand même un peu perplexe Isabelle Pasquier, parce que si ces dessins sont vraiment des faux, ce qui reste à prouver, hein, rappelons-le, on se demande pourquoi on aurait pris le risque de les exposer dans une galerie au vu et au su de tout le monde.
Oui, alors il faut bien distinguer la problématique des toiles de Basquiat et celle des dessins.
Pourquoi ?
Eh bien parce qu'il y a une grande différence. Il est effectivement quasi impossible aujourd'hui d'exposer ou de vendre des faux tableaux de Basquiat, tout simplement parce qu'il existe un catalogue officiel de ces toiles. Il a été fait par le galeriste Enrico Navarra et Romain Brun, un des responsables de sa galerie, estime qu'il a répertorié la quasi-totalité des tableaux du peintre américain.
Il a fait un nombre d'expositions très importantes de son vivant. Il y a eu très souvent des catalogues et également beaucoup de photos d'archives. Quand même un artiste pour lequel il y a eu un travail éditorial fantastique fait autour. On peut très facilement consulter ses ouvrages, ses expositions, en étant rassuré.
On peut être rassuré, vraiment ?
Alors pour les tableaux, oui, mais pas pour les dessins. Basquiat en aurait fait au moins 1500, et là il n'existe pas de catalogue qui fasse référence. Il y a donc ici comme une zone grise. C'est ce que nous explique l'expert Richard Rodriguez.
Au niveau des tableaux, la Galerie Navarra a fait un travail exemplaire d'un catalogue raisonné des peintures, qui regroupe pratiquement 90% des œuvres picturales. Ce qui n'est pas le cas en matière de dessins, qui est beaucoup plus compliqué, parce que les tableaux, il y avait peut-être 800 000 tableaux, mais les dessins, il y en a plusieurs milliers, vous voyez. Et donc, par cette brèche, les faussaires s'en donnent à cœur joie. Ils font des gribouillis, et en plus, ils les accompagnent de faux certificats, qui eux-mêmes sont trompeurs.
Ah oui, donc on a bien des faux dessins qui circulent.
Oui, et on en voit régulièrement sur des sites comme Le Bon Coin ou eBay, parfois pour juste 2 ou 3 000 euros. Alors évidemment, dans ce cas, pas de débat, ce sont clairement des faux. Mais le problème, c'est qu'il y aurait aussi de vrais Basquiat qui ressembleraient à des faux et que personne n'est en mesure d'authentifier.
C'est-à-dire ?
Eh bien, les fameux dessins de Nuit Saint-Georges, nous les avons aussi envoyés à Alfredo Martinez. C'est un faussaire américain qui a contrefait de nombreux Basquiat et qui d'ailleurs a été condamné pour ça. Eh bien, lui, il considère qu'ils peuvent être authentiques. C'est en tout cas ce qu'il a dit à Alexis de Meyer.
Basquiat a produit des dessins de qualité très différente. Je connais quelqu'un qui s'est fait beaucoup d'argent en récupérant des dessins que Basquiat avait décidé de jeter dans son atelier. Il ne faut pas confondre un mauvais Basquiat et un faux Basquiat.
Ah oui, donc pour lui, ce pourrait être des mauvais Basquiat. Mais il y a bien un comité d'authentification des Basquiat qui pourrait trancher cette question une fois pour toutes, non ?
Eh bien, le problème, c'est que non, il n'existe plus. Il y avait bien un comité d'authentification qui était notamment composé de son père et de ses sœurs. Mais il a été dissous en 2012 parce qu'il perdait trop d'argent avec des procès. À ce sujet, écoutez Harry Bellet. Il est journaliste et auteur d'un livre qui s'appelle « Faussaires illustres ». Il nous explique pourquoi le comité a dû se dissoudre.
C'est un problème de frais d'avocat. Si je suis le comité Basquiat et qu'on me présente un faux Basquiat, que je dis que le Basquiat est un faux Basquiat, fort de toute l'autorité que je représente, le propriétaire va me poursuivre. Et tous les comités qui ont été confrontés à ce problème ont décidé d'arrêter tout simplement de fournir des authentifications. En France, on a toujours un comité Chagall, on a toujours un comité Kandinsky, par exemple, qui sont considérés par nos tribunaux comme en droit d'évaluer les œuvres.
Ouais, donc en France, on y voit un peu plus clair, mais aux États-Unis, hein, d'après ce qu'on entend, ce n'est pas le cas, et on risque du coup de ne pas pouvoir aller plus loin du reste, parce que dans le cas qui nous intéresse, dans l'affaire qui nous intéresse, Isabelle, bah, la justice française, elle n'enquête pas.
Non, de ce côté-là aussi, rien ne permet d'aller plus loin. J'ai contacté la gendarmerie de Beaune, le parquet de Dijon, l'OCBC, qui est l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels, mais personne n'a été ou n'a jugé utile de se saisir de l'affaire car il n'y a pas eu de préjudice puisqu'aucun dessin n'a été vendu et que l'entrée de l'exposition était gratuite.
Mais il y avait quand même un catalogue qui était vendu 18 euros.
Oui, un catalogue qui peut, comme l'exposition, servir à délivrer une sorte de certificat de respectabilité à tous ces dessins. Mais un préjudice de 18 euros, c'est un peu faible pour justifier une enquête.
Et les galeristes, les collectionneurs, ils ne peuvent pas saisir la justice ?
S'ils le pourraient, parce que si ces dessins sont des faux, ils peuvent porte de fait préjudice à la réputation des œuvres de Basquiat qui sont sur le marché. Mais dans le milieu de l'art, il semble qu'on n'aime pas trop qu'on parle de faux. C'est ce que m'a expliqué Pierre Lautier, avocat spécialisé en droit d'auteur.
Il y a une question qui pourrait se poser de l'intérêt à agir d'un ensemble de collectionneurs d'œuvres d'un artiste, ça peut être Basquiat, ça peut être un autre, ou des galeries officielles, qui disent que cette apparition de faux sur le marché nous porte préjudice. Mais trop parler de faux fragilise le marché. Donc il y a aussi cette question de continuons à travailler sereinement, tranquillement, sans trop faire de vagues. Trop d'histoires de faux sur le marché, ça peut refroidir les collectionneurs.
Ouais, donc ne disons rien, laissons passer l'orage pour ne pas porter préjudice au marché. Bon, maintenant et pour finir, Isabelle, qu'en dit le premier intéressé, c'est-à-dire le collectionneur qui lui a fourni ses 35 dessins à la galerie de Nuit Saint-Georges, Dominique Viano, qu'est-ce qu'il en dit aujourd'hui de tout ça ?
Alors aujourd'hui, il ne s'exprime plus, mais j'avais tout de même pu l'interroger au tout début de la polémique, avant qu'il ne décide lui aussi de se murer dans le silence. Et voilà comment s'était terminé notre échange.
Si on écoute tous ces détracteurs, soit vous êtes très naïf et vous avez été victime d'escroquerie, soit vous êtes escroc.
Bah, moi, escroc, alors là, pour l'instant, je me sens alors surtout pas escroc. Ce que je trouve quand même hallucinant, c'est un mot comme celui-ci. Et je trouve que celui-ci est très violent. Bah, écoutez, le jour où la plainte sera déposée, il nous sera nécessaire de montrer tout ce que nous avons à notre disposition. Nous les montrerons, tous ces papiers. Et si je suis victime, alors vraiment, là, ça serait vraiment l'aboutissant de l'aboutissant. Prendra les mesures qu'il faut.
Voilà, en attendant, l'exposition s'est arrêtée prématurément, officiellement pour cause de Covid. Ses dessins ont donc rejoint l'ombre et pour le moment, ils conservent leur secret.
Ouais, s'agit-il de faux Basquiat ou de mauvais Basquiat? On en restera donc là. Merci Isabelle Pasquier. Alors je précise que votre enquête, on peut la réécouter, la lire, la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez également nous y laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule investigation de Radio France, ou encore sur Twitter, Investigation RF. Mais surtout, restez avec nous. Et si la Covid-19 était née il y a 7 ans dans une mine chinoise, on évoque cette hypothèse dans quelques instants avec notre invité. Everything you touch is gold. That is why my soul is shining. Feel just like I'm 10 years old. Everything is new and surprising. You don't have to dig too deep to find out your effect on me. 'Cause everybody that I know can see, and they're asking me, what is going on in your life? Everything you touch is gold. That is why my soul is shining. Our story is not yet told. But oh girl, I think that you can stop mining. I don't have to dig to see. My treasure's standing right in front of me. Everyone that I know is asking me, what is going on in your life? Oh, and it feels like heaven. Touching your hand, well, it's just time, yeah, and I will give me some time, and I will. Keep it right there, keep it right there. Everything you touch is gold. Tout ce que tu touches se transforme en or. C'est une belle déclaration du chanteur californien Gregory Porter. C'était extrait de All Rise, son 6e et dernier album solo.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Et nous recevons maintenant Stéphane Foucard, qui est spécialiste des sciences de l'environnement au journal Le Monde. Bonjour.
Bonjour.
Pendant les vacances de Noël, vous avez signé une enquête passionnante sur les origines de la Covid-19, une enquête qui nous emmène dans une mine où il s'est passé d'étranges choses en 2012. On va en parler dans quelques instants. Mais peut-être d'abord, ce qu'on va faire, c'est d'évoquer, de balayer quelque part les pistes qui, elles, se sont dégonflées. Alors le pangolin, par exemple, il serait finalement mis hors de cause?
Alors, mis hors de cause, l'avenir le dira certainement. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le pangolin n'est pas le... En tout cas, il n'y a aucune démonstration scientifique rigoureuse du fait que le pangolin serait le fameux hôte intermédiaire, c'est-à-dire l'animal qui aurait servi en quelque sorte de tremplin biologique entre la chauve-souris, qui est le réservoir naturel présumé de ce SARS-CoV-2, et l'homme. Donc aujourd'hui, en fait, il est impossible de dire que le pangolin a servi d'hôte intermédiaire dans l'émergence de cette maladie.
On l'a accusé trop vite.
Alors on l'a accusé très vite, et on se rend compte rétrospectivement que c'est une accusation qui est venue des autorités chinoises, qui ont fait une conférence de presse début février, et tout ça en contravention avec la démarche scientifique qui veut qu'on ne fasse de conférences de presse qu'avec des résultats qui sont déjà publiés, passés par le filtre des revues à comité de lecture. Et là, c'est une université chinoise qui fait une conférence de presse pour dire « ça y est, on a trouvé l'hôte intermédiaire, c'est le pangolin, on a un virus qui ressemble à 99% au SARS-CoV-2 ». Et c'était une annonce qui était bien évidemment extrêmement prématurée. Hein. Les publications scientifiques qui sont venues à la suite, ont fortement relativisé tout ça. En réalité, ce sont des petits morceaux du génome du SARS-CoV-2 qui ont été retrouvés sur des coronavirus de pangolins.
Alors, SARS-CoV-2, Covid, c'est pareil. Hein.
Voilà, SARS-CoV-2, c'est le virus qui provoque la maladie de Covid-19. Et donc, on voit qu'il y a eu une volonté des pouvoirs chinois, des autorités chinoises, de promouvoir cette idée du pangolin comme hôte intermédiaire, qui arrange tout le monde, hein, puisque le pangolin, c'est l'animal sauvage, qui fait l'objet de trafics qui sont illégaux. Et donc, on pouvait pas mettre en cause, en quelque sorte, les autorités chinoises pour un laxisme, par exemple, dans la surveillance de certains élevages d'animaux, par exemple la civette, hein, qui a été l'hôte intermédiaire de la précédente épidémie de SARS, hein, le fameux SARS-CoV-1 en 2002-2003. Donc finalement, le pangolin a arrangé tout le monde et on s'est un petit peu précipité sur cette idée.
Même constat d'ailleurs pour le marché de Wuhan, dont il aurait pu être un vecteur de propagation, ça on l'accepte aujourd'hui. En revanche, le patient zéro, il ne serait pas là.
Alors déjà, le patient zéro, il est à peu près acquis qu'on ne le retrouvera jamais, hein, surtout pour une maladie dont 50% des cas environ sont asymptomatiques. Hein,
donc... Ouais, mais où qu'il soit, il ne serait pas là.
Alors en tout cas, ce qui est sûr maintenant, c'est que dans les données qui ont été apportées par les épidémiologistes chinois, eh bien les tout premiers cas qui ont été identifiés, les cinq six premiers cas, il y en a 3 à 4 qui n'ont pas de rapport, aucun rapport avec le marché. Et donc c'est difficile de pointer vers ce marché comme étant la source finalement de l'épidémie. C'est plus aujourd'hui, même les chercheurs chinois d'ailleurs le disent, hein, aujourd'hui c'est plus le marché de Wuhan est plus considéré comme probablement un amplificateur de la maladie plutôt que la source du virus.
Alors on en arrive à notre mine qui se trouve à 1500 km au sud-ouest de Wuhan, où on a vu apparaître un étrange virus en 2012, où 6 personnes ont été hospitalisées, 3 sont mortes. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette mine?
Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, donc dans le Yunnan, donc comme vous le dites, à plusieurs centaines, voire plus d'un millier de kilomètres de Wuhan, il y a 6 travailleurs, 6 mineurs qui se retrouvent à l'hôpital, touché par une pneumopathie sévère, un syndrome respiratoire aigu sévère. 3 en meurent et ce qui réunit ces 6 personnes, c'est le fait qu'elles ont travaillé dans une mine désaffectée de cuivre. Elles ont travaillé au curetage de guano de chauve-souris.
Donc il y a des chauves-souris dans cette mine.
Il y a énormément de chauves-souris dans cette mine abandonnée. Et ce qui est très intéressant, c'est que le cas de ces mineurs était a suscité beaucoup d'intérêt, hein, de la part de la communauté scientifique chinoise, au point que il y a eu tout un rapport publié sur les cas cliniques, les 6 cas cliniques de ces malades. Et ce qu'on voit dans ce rapport, qui est un rapport officiel publié sur la plateforme de publication des travaux académiques universitaires chinois, eh bien on se rend compte que ces 6 mineurs ont été frappés d'une maladie dont les symptômes ressemblent de manière assez frappante au Covid-19. C'est-à-dire, on a des scanners thoraciques qui montrent des opacités bilatérales, un peu comme celles qu'on voit avec le Covid-19. Il y a même des cas de thrombose, il y a une détresse respiratoire, et puis il y a la mort de 3 de ces 6 mineurs, les 3 plus âgés, finissent par mourir au bout de plusieurs jours d'hospitalisation.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut penser que l'origine du virus, elle remonterait à 2012?
Alors c'est très difficile de le dire et probablement pas. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que en février, les chercheurs chinois de Wuhan publient et sortent du chapeau en quelque sorte le plus proche cousin du SARS-CoV-2, c'est-à-dire le virus qui lui ressemble le plus et qui est identique au SARS-CoV-2 à plus de 96%. Alors 96%, ça semble énorme, ça fait quand même une certaine distance génétique entre les deux virus. Et ils publient ce virus, qu'ils appellent RATG13, sans dire d'où il vient, ce qui est extrêmement anormal et ce qui a surpris énormément de chercheurs. Mais toujours est-il que ce fameux RATG13, donc ce fameux cousin, le plus proche cousin du SARS-CoV-2, eh bien, il s'est révélé avoir été échantillonné dans cette fameuse mine de Mojiang, dans le Yunnan, là où en 2012, ces 6 mineurs sont tombés malades. Et donc, il y a tout un tas de chercheurs qui demandent à ce que l'Institut de virologie de Wuhan ouvre ses bases de données et dise, fasse la transparence en quelque sorte, sur les virus qu'ils ont récupérés dans cette fameuse mine abandonnée de Mojiang.
Mais vous disiez tout à l'heure, on peut émettre l'hypothèse que la Covid vienne de cette mine, mais probablement pas. Pourquoi ?
Parce qu'on n'a pas trouvé de virus identique à 99 ou 100% provenant de cette mine. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce fameux RATG13, les chercheurs disent qu'il est, malgré tout, assez distant du SARS-CoV-2. Distant, ça veut dire que le taux de mutation naturel les sépare d'environ 40 à 50 ans.
Ouais, là, il y a 7 ans.
Voilà, donc ça fait beaucoup. Donc, on s'interroge encore sur le lien qu'il peut y avoir entre l'émergence du SARS-CoV-2 et ce qui s'est passé dans cette fameuse mine de Mojang en 2012.
Mine qui est très protégée, très surveillée.
Oui, la BBC et Associated Press ont envoyé des reporters pour essayer de visiter un petit peu ce coin. Et ils ont été empêchés d'accéder à cette fameuse mine, pour une raison qui n'est pas explicitée d'ailleurs, souvent pas empêchée par les autorités ou par des méthodes, disons, officielles, mais empêchée parce que la route était barrée par un accident ou ce genre de choses, quoi. Donc on sent qu'il y a une volonté de la part des autorités chinoises de ne pas faire toute la transparence sur ce qui a pu se passer ou sur les liens éventuels qu'il pourrait y avoir entre cette fameuse mine de Mojang et le SARS-CoV-2. Mais il faut dire quelque chose, c'est que ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si cette opacité est un réflexe, disons, naturel des autorités chinoises.
De protection d'un site, par ailleurs, sur lequel il y a eu effectivement des problèmes sanitaires.
Exactement. On ne sait pas si c'est lié à quelque chose que les chercheurs ou les autorités chinoises chercheraient effectivement à cacher, ou si c'est simplement l'opacité générale du système, la manière dont ça fonctionne en Chine.
Oui, parce que la transparence est quand même le problème plus global, c'est-à-dire que la Chine s'oppose aussi à toute enquête transparente d'une manière générale sur l'origine de ce virus.
Oui, alors là, ces jours-ci, on a appris que l'équipe d'une dizaine d'enquêteurs mandatés par l'OMS pour précisément aller enquêter, chercher les origines du virus, eh bien se retrouvait bloquée, n'a pas pu accéder au territoire chinois pour une raison qui n'a pas été encore explicitée. Et donc tout ça participe, en fait, d'une atmosphère de suspicion qui est provoquée par la réaction des autorités chinoises, en quelque sorte.
Bien, le mystère demeure, même si les pistes peu à peu, enfin certaines portes se ferment et d'autres restent ouvertes. On suivra ça. Merci Stéphane Foucard. Alors je précise que votre article est accessible en ligne, désormais, sur le site du Monde pour les abonnés. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer et réalisée par Christophe Imbert. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Audibert et à la technique, il y avait Pauline Laverdure et Julien Dumont. Excellent week-end et à samedi prochain. Après le flash, dans la librairie francophone, Emmanuel Kérad reçoit deux auteurs, la française Gaëlle Josse et le camerounais Max Loeb.